Bonsoir à toutes, à tous, et à chacun en particulier. Voilà, je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles. Dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 1, au verset 1, que des 1 ce soir. 1 Samuel, chapitre 1 et verset 1er. Nous aurons une lecture assez conséquente, alors soyez attentifs et essayez de retenir ce que nous allons lire. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïtsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroram, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison, à Rama. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour cette lecture pour l'instant, on continuera tout à l'heure. Mais je voudrais simplement qu'on se pose une petite question, qu'on regarde un petit peu à l'histoire de cette femme. On a vu dernièrement l'histoire d'homme, mais là on va voir l'histoire de cette femme qui avait un des plus gros soucis de l'époque. Elle était stérile. Aujourd'hui encore, une femme stérile porte une peine dans son cœur. Elle voudrait bien avoir un enfant. Et il y a vraiment une grande souffrance, je le crois. Mais à l'époque, il était encore plus grave quand une femme ne pouvait pas encore avoir d'enfant. C'était encore plus de peine, encore plus de souffrance, parce qu'avant, avoir des enfants, c'était vraiment considéré comme une grâce de Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait mécaniquement comme cela, comme on le conçoit peut-être dans notre génération aujourd'hui. Avant, il y avait vraiment une conscience, une prise de conscience que avoir un enfant, c'était une grâce de Dieu. Et on avait l'impression vraiment, on savait que quand on avait beaucoup d'enfants, c'est qu'on était béni. Avoir des enfants, c'était signe aussi de prospérité. Avoir des enfants, c'était avoir de la main-d'œuvre dans les champs. Alors, il allait avoir de la récolte, il allait avoir tout cela. Avoir des enfants, puis beaucoup d'enfants, c'était vraiment une grâce à l'époque. Et plus on avait d'enfants, plus on était respecté par les autres. Plus on était bien vu par les autres femmes, par les gens de l'époque. Avoir beaucoup d'enfants, c'était bien vu. Alors qu'aujourd'hui, dès que vous avez 3 enfants, on vous dit « Oh là là, mais comment tu vas t'en sortir ?»« Oh là là !» On l'a vu hein, avec Stéphanie. « Déjà 3 !» Et puis, j'imagine même pas 4, 5, 6, 7, comme ça se faisait avant. Mais mes parents, mon père, disons, il vient d'une famille où il y a 11 enfants. 11 enfants. Est-ce que quelqu'un ici ce soir peut dire que j'ai au moins 4 ou 5 sœurs, 4 frères ou 4 sœurs qui sont au moins 5 dans la maison, 5 enfants. Il y en a qui sont plus de 6, ah, plus de 7, 8, 9, wow, là, combien? Vous étiez combien? 10 enfants. Vous voyez, ça c'est rare hein, aujourd'hui, c'est rare. Hein. Et de notre génération, des jeunes qui disent « moi j'en veux 12 », c'est rare. Hein. Dans la Bible, avoir beaucoup d'enfants, c'était génial, c'était bien vu, c'était une grande grâce. Et les femmes, elles rêvaient que d'une chose, c'est d'avoir une grande, grande famille, beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a la péridurale. Avant, elle n'y était pas, elle voulait quand même des enfants. Et puis aujourd'hui, on calcule 2, c'est bien, parce qu'il faut du temps pour les élever. Mais avant, il y avait beaucoup d'enfants et vraiment, une famille avec beaucoup d'enfants, c'était une bénédiction. On voit dans la Bible, Jacob qui a tous ses enfants, etc., qui est content, etc. Et on le voit, hein, c'est vraiment une grande grâce. Et cette femme, en plus, va se retrouver dans un foyer où il y a 2 femmes pour un homme. Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Et Dieu a bien dit qu'il n'y ait qu'une femme. Plus tard, il va le dire, on va dire, mais s'il y a quelqu'un qui veut une responsabilité quelque part, surtout dans l'Église, ben, qu'il soit mari d'une seule femme. Parce qu'on le voit, quand il y a 2 femmes, il y a de la jalousie, ça se comprend. Quand vous qui êtes amoureux ou amoureuse, vous voulez l'autre pour vous et pas pour 2. Vous voulez pas partager l'amour, ça s'approprie les choses quand même. On est tous d'accord. Et là, elle est dans un foyer en plus où il y a une autre femme et le comble, c'est que elle, cette femme, elle a beaucoup d'enfants. Il est dit qu'elle a des filles et des fils. Elle a des filles et des fils. Et elle se retrouve la honte sur elle, alors que c'était vraiment bien vu, que c'était une grâce, que c'était vraiment bien d'avoir beaucoup d'enfants. Elle n'en a pas. Et en plus, sa rivale, comme c'est écrit, sa rivale va avoir beaucoup d'enfants et elle, aucun. Et le comble de tout cela, c'est qu'on va se moquer d'elle. Première chose que je remarque dans cette affaire, c'est l'affliction de cette femme. 2 choses, mais la première, c'est l'affliction. Elle est stérile. Et le pire, on se moque d'elle. L'autre femme va se moquer d'elle. Peut-être que quelqu'un ce soir est ici et il est dans une affliction particulière. Peut-être qu'il est célibataire, qu'elle est célibataire et que les gens se moquent d'elle. Parce que ça y est, tu as 30 ans, tu as 35 ans, oh, tu es encore célibataire, t'as un problème toi. Et on se moque de vous. Peut-être que quelqu'un est un peu différent physiquement et on se moque de vous. Et alors qu'aujourd'hui on fait très attention à son physique, alors qu'aujourd'hui on fait très attention au couple que les gens forment, il faut que ça aille bien ensemble physiquement, eh bien il y a peut-être une moquerie qui est là, quelqu'un souffre peut-être pour ça. Peut-être que quelqu'un souffre parce que il y a des parents qui ne les ont pas aimés, qui ne vous ont pas aimés comme il fallait. Et il y a une souffrance parce que les autres enfants de la maison étaient aimés mais pas vous. Peut-être que c'est vos enfants qui se moquent de vous et qui ne vous respectent plus. Peut-être que quelqu'un est dans une affliction que je ne peux pas décrire non plus puisque je ne connais pas tout et que je ne peux peut-être même pas l'imaginer. Quelqu'un est là souffrant, peut-être ce soir. Et on va voir que non seulement elle a ça, mais en plus, elle va être incomprise. Incomprise. On se moque, elle est stérile, elle est incomprise par sa rivale qui la pousse à se mettre en colère contre l'Éternel à cause de ce qui lui arrive. Elle est incomprise par son mari qui va lui dire « Mais je ne vaux pas plus que 10 fils. » Mais alors, lui, il a les bons mots pour sa femme, tiens. Lui, il est encourageant. Tiens, mais je vaux plus que 10 fils, écoute, tant pis. Et alors qu'elle, peut-être, elle aurait aimé entendre autre chose. Elle souffrait dans son cœur, même son mari n'a pas une parole qui va arriver à la consoler. Peut-être qu'il va faire de son mieux, mais il n'y arrive pas. Et comble de tout, elle n'est pas comprise par le pasteur qui la prend pour ivre. Pasteur de l'époque, Élie, il est là, et au lieu d'encourager cette femme, qui est là, qui souffre et qui pleure, et bien qu'est-ce qu'il fait? Et passe ton vin. Vous imaginez? Même l'autorité spirituelle dans son pays, eh bien il ne la comprend pas, incomprise. Alors que cette femme était venue avec son mari, qu'elle était venue à Silo, parce qu'à l'époque, à Silo, il y avait l'Arche de l'Alliance, qui représentait l'endroit où la présence de Dieu se manifestait, l'endroit où on venait adorer Dieu, l'endroit où on venait vouer un culte à Dieu, c'était à Silo, et elle va avec son mari chaque année, et elle y va avec son mari, soi-disant, oui, dans un but, et c'est pas soi-disant, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Et voilà que la rivale, elle va lui dire, tiens, mais je me moque de toi, et puis c'est sûrement que Dieu t'aime pas, c'est sûrement que t'as un défaut. Peut-être que quelqu'un est malade, l'affliction de quelqu'un, c'est la maladie, et on va lui dire, tu sais, si t'es malade, t'es un pécheur. C'est que t'as un péché qui n'est pas pardonné, et Dieu, il t'en veut. Mets-toi en colère contre lui, qu'est-ce que t'as fait, t'as rien fait, ben alors c'est la faute à Dieu, etc. On vient pour adorer, et toujours quelqu'un pour nous décourager. Peut-être quelqu'un, des fois vous venez le dimanche, vous venez à l'église, et puis alors que vous êtes en route, quelqu'un se moque de vous, ou quelqu'un vous décourage, ou alors il y a un pneu qui perce, et vous avez une galère avant de venir, et vous n'arrivez pas dans les bonnes dispositions, vous savez ce que c'est? Mais cette femme, chaque année, alors qu'elle monte pour aller dans la présence de Dieu, eh bien sa rivale la persécute et se moque d'elle, incomprise, même par le pasteur. Le pasteur, au lieu de lui accorder une parole d'encouragement, qu'est-ce qu'il va faire? Et oh, c'est pas comme ça qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu. Vas-y, hein, passe ton vin, c'est pas correct. Et elle souffre. Ça, c'est sa situation. Ça, c'est son affliction. Et puis maintenant, je voudrais voir l'attitude de cette femme. L'attitude. Elle a une bonne attitude, vous savez ce qu'elle fait? Elle va se plaindre, cette femme, mais elle va se plaindre à Dieu. Elle va se plaindre à Dieu. Il nous est dit qu'elle va pleurer, qu'elle va prier, et elle va le faire abondamment. Elle va quitter le repas, elle va quitter la table, elle n'a même plus le goût de boire, même plus le goût de manger, tellement elle est souffrante dans son cœur. Elle va aller à l'église, elle va aller au temple, et elle va se mettre à genoux, elle va se prosterner devant Dieu, elle ne va même pas arriver à parler à voix haute, elle va juste bouger ses lèvres, et dans son cœur, une prière va sortir. Sa souffrance va sortir. Elle va dire à Dieu combien elle va pas. Elle se plaint, oui, mais elle se plaint à Dieu. Et je veux encore rappeler, même si je l'ai déjà dit, je veux encore rappeler qu'on a le droit de se plaindre. On a le droit de raconter, de dire qu'on va pas bien. On a le droit de dire qu'on souffre. Dans les églises, comment tu vas? Très bien, il faut afficher un visage tout souriant. Au travail, il faut afficher un visage tout souriant. À la maison, peut-être, il faut afficher un visage paisible, tout ça. Mais dans le cœur, personne ne peut le sonder. Et des fois, on culpabilise parce que ça va pas, on n'ose pas dire. Parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Mais devant Dieu, on a le droit de dire, je souffre, j'ai mal, j'en peux plus, je suis fatigué. Aide-moi, Seigneur. Elle a la bonne attitude. Elle se plaint à Dieu. Elle ne va pas râler sur sa rivale. On ne lit pas dans ce texte qu'elle va s'en prendre à cette femme. Et on sait comment c'est des batailles de filles, hein. Des disputes de filles, on s'attrape par les cheveux, on se tire, etc. Hein, et moi, j'ai une sœur, je sais comment ça se passe. Et on sait ce que c'est. Elle aurait pu dire, ouais, elle, je vais me venger, je vais la taper. Ça aurait pu être quelque chose d'incroyable à la maison. Elle va dire non. Elle ne va pas se venger sur sa rivale. Son mari, alors qu'il lui dit ça, elle ne va pas dire, mais tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas, moi, je veux des enfants. Elle ne va pas râler sur lui. Elle ne va pas s'en prendre à lui. Le pasteur, le sacrificateur Élie, elle va pas lui dire « Ah, c'est ça du discernement. Toi, tu es un homme de Dieu, tiens. Tu crois que je suis sous ? Je souffre. » Elle aurait pu lui répondre, elle aurait pu s'en prendre à lui. Elle aurait pu lui faire une remarque. Mais non, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'humilier. C'est la deuxième chose que je remarque dans son attitude. Elle pleure, elle prie, mais elle va aussi s'humilier. Vous avez vu comment elle parle à Dieu? Elle va dire ta servante. Littéralement, c'est ton esclave. Parce qu'avant, être serviteur de quelqu'un, être servante de quelqu'un ou serviteur, ça voulait dire être esclave, être acheté par lui, lui appartenir. Être soumis à la personne. Être esclave. Et elle va dire à Dieu ça. Mais juste après, alors que cet homme de Dieu lui dit qu'elle est ivre, il se trompe, elle va lui dire à lui aussi, en lui parlant, « Mon Seigneur, ta servante, ton esclave. » Voilà les mots qu'elle utilise. Elle ne se rebelle pas contre cet homme. Elle n'en veut pas à cet homme. Sa souffrance, elle la présente à Dieu. Et à cet homme, même devant cet homme, elle va s'humilier. Et elle va dire, « Voilà mon affaire. Voilà, je souffre énormément. » Elle ne lui dit pas pourquoi, mais elle lui dit, « Je souffre énormément. » C'est pourquoi je répandais mon âme devant Dieu. C'est pourquoi je priais, je suppliais Dieu de venir à mon secours. Elle a une attitude d'humilité. Devant Dieu, la bonne attitude, c'est une attitude d'humilité. Pourquoi ? Parce qu'on n'est que des créatures. On n'est pas créateurs. On est tous créés par Dieu. Deuxièmement, parce qu'on est tous pécheurs. Devant Dieu, on ne mérite rien. Et si on s'approche de Dieu pour demander quelque chose, ce n'est pas un dû, mais c'est une grâce qu'il nous fait. Souvenez-vous toujours de cela. On ne mérite rien devant Dieu, mais tout ce qu'il nous donne, c'est par grâce, par amour, parce qu'on vient eh bien, lui réclamer sa compassion. Amen. Elle s'humilie devant Dieu, mais aussi devant les autres. Elle ne se rebelle pas. Et puis, troisième chose que je remarque, c'est elle croit avant de voir. Parce que Élie va lui dire, il va lui dire ceci, « Va en paix, quand il remarque qu'il s'est trompé, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle va juste lui dire ça. Croyez-vous que c'est parce qu'Élie était un homme supérieur aux autres qu'elle a cru ses paroles, qu'elle allait être exaucée par Dieu ? Juste après, on voit qu'Élie avait des choses à se reprocher, Dieu va lui faire un reproche. Et Dieu va même se mettre en colère contre ses fils. Et il se met en colère contre Élie parce qu'il n'a pas veillé sur ses fils qui désobéissaient à Dieu. Élie n'était pas un homme exceptionnel, c'est pas parce que ça venait de la bouche d'Élie que ça a eu une importance. Pourquoi ça a eu une importance dans son cœur ? Parce que derrière la parole d'Élie, il y avait le Saint-Esprit qui a convaincu Anne. Il y avait l'Esprit de Dieu qui l'a convaincu que ce que le sacrificateur était en train de dire, c'était la vérité. Dans son cœur, elle était prête à croire, elle avait soif d'une parole de Dieu, elle avait soif, mais quand elle a eu cette parole, elle a fait confiance en la parole qui venait de Dieu. Pas en la parole qui venait de l'homme, mais en la parole de celui qui l'avait déposée dans le cœur de cet homme. « Va en paix ». Et que le Seigneur d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ça lui a suffi. Et comment elle est repartie juste après ? Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Dès qu'elle a eu cette parole de Dieu, que quelqu'un avait prié pour que Dieu exauce sa prière, que quelqu'un avait dit eh bien, que le Seigneur allait l'exaucer, elle a fait confiance en cette parole. Et elle est repartie avec un visage transformé, avec un nouveau désir, consolée. Elle s'est même mise à manger, elle qui jeûnait parce qu'elle souffrait. Elle s'est mise à prendre un bon repas parce qu'elle savait que Dieu avait entendu sa prière. Est-ce que vous croyez quand vous priez que Dieu entend votre prière ? Est-ce que vous croyez toujours que la prière est efficace ? Je vais vous raconter quelque chose. Pour la plupart, vous l'avez déjà entendu. Ma petite sœur, quand elle avait 4 ans, on avait l'habitude de prier avant de manger. C'est une bonne habitude. Jésus l'avait. Et on se met à prier et puis on demande, est-ce que Gabriel, tu veux prier ? Oui, oui, je veux prier. Et elle se met à prier. Ma mère souffrait d'une vérie plantaire, elle avait du mal à marcher. Elle ne pouvait pas poser le pied, elle avait mal, ça faisait des semaines et ça empirait. Et ma sœur, elle commence à prier, merci Jésus pour ce repas, tout ça, etc. Tu bénis papa, tu bénis maman, tout ça. Puis elle s'arrête, amen. Et puis on va pour manger et puis d'un coup elle fait, oh, j'ai oublié de prier pour la verrue à maman. Pour le pied à maman, 4 ans. Et puis on dit, ah d'accord, ben là, on va prier, on te laisse prier, allez vas-y. Et puis elle se met à prier, Seigneur, s'il te plaît, guéris le pied à maman. Amen. Prière toute simple, mais avec un cœur d'enfant, c'est-à-dire un cœur qui croit. Elle a fini la prière, on se met à manger, maman va chercher du sel, elle l'avait oublié, elle se lève, elle va dans la cuisine, elle prend le sel. Et puis d'un coup, elle remarque que depuis qu'elle s'est levée, elle n'a plus mal. Puis elle se met à taper sur son pied pour être sûre qu'elle n'a plus mal. Elle tape, et puis d'un coup, elle se met à crier « Je suis guérie, j'ai plus mal aux pieds !» Ça, c'est un souvenir que j'ai quand j'étais à table, petit. Une autre fois, Gabrielle encore, elle prie à table, elle avait des boutons sur la langue depuis quelques jours. Des histoires toutes simples, vous avez vu ? Elle avait des boutons sur la langue, et puis elle se met à prier à table avant de manger. Voilà, « Seigneur, guéris-moi mes boutons !» Enlève mes boutons, s'il te plaît. Elle se met à manger. Puis au bout d'un moment qu'elle mange, elle réalise qu'elle n'a plus les sensations des boutons dans la bouche. Elle court, on la voit se lever, elle court devant une glace, elle ouvre la bouche. Ah, et elle regarde, il n'y a plus de boutons. Le Seigneur avait enlevé les boutons. Merci Seigneur. On m'avait volé mon chien. On m'avait volé mon petit chien. Ça faisait 3 jours qu'on avait acheté un chien. Un petit chien. Un York croisé avec un caniche. Un bâtard, quoi. Et on avait, j'ai acheté ce petit chien, on habitait dans un HLM, et moi je prends pour sortir le petit chien, je le mets à mes pieds, et voilà qu'une voiture, une Mercedes blanche arrive devant, et la Mercedes s'arrête juste devant moi, et il y a un garçon qui sort, il me pousse, il prend le chien. Je lui dis « c'est mon chien », il me dit « non, c'est le mien », et il se met à partir. Et la voiture part en trombe, je cours après elle, et puis je regarde la plaque d'immatriculation, je me souviens que des premiers chiffres. Vous vous en souvenez la dernière fois que j'ai raconté ? C'est quoi le numéro ? 7413, faut s'en souvenir. J'avais 9 ans, 7413, c'est tout ce que je retiens. Je vais à l'interphone, « Maman, on m'a volé le chien !» Il ne comprenait rien, monte. Je monte et je raconte, « On m'a volé le chien, etc. » Hop, le voisin du dessous, gendarme, on va le voir, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, etc. Mais écoutez, nous, on va regarder si dans les fichiers, ce numéro dit quelque chose. Faites le tour du quartier et vous voyez si vous retrouvez la voiture. On retrouve la voiture avec mon père, on retient 7413 VJ 34, c'était à Béziers. Et puis, on voit la plaque, on l'amène au gendarme. Le gendarme, il va et il fait l'affaire. Entre-temps, on part en vacances. Ça prend plusieurs jours. Pendant 2 semaines, je pars en vacances. Et puis pendant qu'on est en vacances, mon père qui appelle maman et qui dit « le fils prodigue est de retour ». Moi, je comprends pas, je suis tout petit, je comprends pas. Et puis, maman, elle dit « ok, en rentrant de vacances, je vais voir, je monte, tout ça, on salue papa, on se serre dans les bras, ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vu. » Il me dit « viens, on va chez le voisin en dessous ». On descend, qui c'est que je vois ? Mon Elliot, le petit chien qui avait grandi. Parce que ça va vite quand c'est petit. On l'avait eu, il avait quelques semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis d'un coup, là, il avait bien grandi. Mais Dieu m'avait rendu mon chien, vous savez pourquoi ? Parce qu'en allant en vacances, dans la voiture, j'entends une cassette audio, une comédie musicale chrétienne qui s'appelle Psaume, le livre Psaume. Et puis dedans, il y avait les témoignages de jeunes garçons, de jeunes enfants. Et il y en a un qui dit « moi, on m'avait volé mon vélo. J'ai prié, Dieu me l'a rendu. » Et il y avait quelqu'un d'autre qui dit « moi, on m'avait volé mon cartable. J'ai prié, on me l'a rendu. » Et moi, dans mon cœur, je dis « eh ben moi, on m'a volé mon chien. » J'ai prié et je ne l'ai toujours pas. Mais je disais, mais si alors il leur a rendu, eh bien moi je vais prier jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il me le rende. En tout, j'ai prié plus de 3 semaines, matin, midi, soir et plus. Goûter quand il y avait. Et le matin, quand je me levais, je dis à papa et maman, il faut qu'on prie pour Elliot. Mais tu sais, tout ça, il faut qu'on prie pour Elliot. Et on priait. Et le midi au repas, merci Seigneur pour ce repas. Et s'il te plaît, rends-moi Elliot. Et le soir avant de se coucher, etc., etc. Dès que je priais pour lui. Et plusieurs fois par jour. Et au bout de 3 semaines, eh bien, le chien a été rendu. Amen. Je crois que dans des petites histoires comme ça, ça peut faire sourire. Mais je crois que c'est dans les petites choses comme ça qu'on voit la fidélité de Dieu. Et encore même, beaucoup, on pourrait raconter des choses qui frapperait plus le regard, mais je préfère m'en tenir à des choses humbles comme celle-là. La foi d'un enfant, Dieu la récompense, parce qu'il récompense une foi simple, tout bonnement. Elle croit avant de voir. Elle s'en va, elle repart, son cœur est apaisé, elle se met à manger, et elle se met à avoir un visage différent parce qu'elle a une parole de Dieu. Et cette parole, elle la lâche pas. Et quand on continue la lecture, continue avec moi, deuxième partie du verset 19. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Anne, elle est repartie joyeuse et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'elle a eu raison de croire ? Sans voir, bien sûr. Jésus va dire un jour à quelqu'un, à une autre femme, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À qui a-t-il dit ça ? À Marthe, devant le tombeau de son frère. C'était pas simplement, je veux être enceinte, je vais avoir un enfant, rends-moi mon chien, enlève-moi mes boutons, guéris la vérue plantaire. C'était carrément, ressuscite un mort. Ça dépasse tout raisonnement. Ça dépasse toute intelligence. C'est pas humain. Ça sort de l'humain, là. Ça sort du possible. Et Jésus, il est devant ce tombeau, il va dire à cette sœur, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Anne a cru, Anne a vu la gloire de Dieu. Elle a enfanté un fils qu'elle a appelé du nom de Samuel, parce qu'elle, celui-là, il avait été demandé. Celui-là, il avait été demandé. Alors elle a dit, je t'appelle Samuel. Samuel. Elle a eu un enfant. Et combien de fois on prie, on croit que Dieu entend, mais on ne croit pas qu'il peut agir. Combien de fois on prie, on croit que Dieu entend, on croit que Dieu peut agir, mais on ne croit pas qu'il va agir. La foi, c'est de croire que tout ce qu'on peut demander est possible à Dieu, et qu'à moins que Dieu ne le veuille pas parce qu'ils veulent m'en préserver, Dieu me l'accordera, si c'est dans sa volonté. Quand il dit que lorsque deux s'accorderont pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur accordera si on le demande en son nom. Il y a des paroles sûres comme ça, qu'on ne peut pas adapter, chercher à interpréter, elles sont claires. Et quelquefois, beaucoup de fois, on prie, on dit « Seigneur, si tu veux, et c'est bien de dire si tu veux, de garder cette souveraineté à Dieu, Dieu est souverain. » Mais des fois, on s'en arrête à « si tu veux, bon, je pense que ce n'est pas possible, mais bon, au cas où il y aurait un miracle, je prie. » C'est presque de la superstition. C'est l'inverse. C'est-à-dire, Seigneur, je sais qu'à toi, tout est possible. Si c'était dangereux pour moi, s'il fallait attendre, peu importe, je te fais confiance. Mais en attendant, moi, je m'attends à ce que tu m'exauces. C'est une foi active et pas une foi passive. Elle s'est mise à croire, son visage a été changé, elle avait confiance que ce que Dieu avait dit, il allait le faire. De ce qu'elle avait demandé, elle allait l'obtenir. Elle voit la prière être exaucée, la promesse s'accomplir. Mais elle ne s'arrête pas là. Et là encore, il y a une étape que bien souvent, on oublie d'accomplir. Elle croit, elle voit, mais elle va remercier Dieu. Et bien souvent, quand Dieu nous exauce, quand Dieu nous bénit, quand il ne nous exauce pas tout de suite, on oublie quand même de remercier Dieu. Il y a une histoire dans la Bible, un récit, c'est pas une histoire, c'est pas inventé, où 10 lépreux vont venir vers Jésus pour lui demander d'être guéri. Les 10 sont guéris sur le chemin, il n'y en a qu'un qui revient dire merci à Dieu. Quelle attitude vous avez? Quelle attitude j'ai devant Dieu quand il m'exauce, quand il me bénit, quand il me fait grâce, quand il prend soin de moi chaque jour? Est-ce que j'ai toujours cette habitude, cette bonne habitude, sans en faire juste un réflexe mécanique? Mais est-ce que j'ai cette habitude d'être reconnaissant envers Dieu, de lui dire merci? Regardez avec moi le verset 24. Quand elle eut sevré Samuel, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. » Cette femme, non seulement elle a obtenu la grâce, elle a eu foi, elle a vu la promesse s'accomplir, mais en plus, elle va revenir quelques années plus tard. Elle va revenir quand l'enfant est sevré et elle va remercier Dieu. Comment? Premièrement, on l'a lu, en offrant des sacrifices à l'Éternel. Dans la loi, il est dit que quand on voulait faire une offrande à Dieu, on pouvait le faire soit avec un taureau, un gros bétail, soit avec un menu bétail, un agneau, une brebis, quelque chose comme ça, soit avec des oiseaux. En fonction de notre richesse et en fonction de l'offrande qu'on voulait faire à Dieu. 3 différentes offrandes, c'est dans le premier chapitre des Lévitiques. Et elle, non seulement elle va pas prendre que quelques oiseaux, elle va prendre ce qu'il y a de plus cher. Elle va prendre 3 taureaux, un taureau, mais en plus pas qu'un, elle va en prendre 3. 3 taureaux pour dire au Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, 3 taureaux, voilà ce que j'ai le plus cher, ça a de la valeur. Je t'en donne pas un, je te donne pas que ce qu'il y a de plus cher, je te donne 3 fois ce qu'il y a de plus cher. Elle donne 3 fois ça. Et puis elle va rajouter un épha de farine. Un épha de farine, ça parlait de cette offrande aussi qu'on voulait faire. L'offrande qui parlait du caractère de Jésus. La fleur de farine nous parle du caractère de Jésus. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais elle était en train d'offrir cet épha de farine. Et derrière ça, il y a un message qui veut dire, Seigneur, je m'offre moi à toi pour que tu formes ton caractère en moi. Je me donne à toi moi-même pour que tu formes ton caractère en moi. Les taureaux représentés, je te donne ce que j'ai de plus cher. Mais non seulement ce que j'ai, mais je m'offre moi-même un effet de farine, c'est-à-dire je m'offre moi pour que dans moi, en moi, tu mettes ton caractère, que tu façonnes ce que tu veux que je devienne. Et une outre de vin qui nous parlait non seulement de la joie qu'elle avait en Dieu, qu'elle avait reçue en Dieu, mais aussi du sang de Jésus. C'est de dire qu'aujourd'hui, en est reconnaissant envers le salut de Dieu. Quand elle va faire une prière qu'on va lire un peu tout à l'heure, elle va appeler « Car je me réjouis de ton salut ». Elle prie et elle dit « Je me réjouis de ton salut ». Déjà, il y a la pensée de ce remerciement parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Elle ne pouvait pas le dire comme ça parce que Jésus n'avait pas existé à cette époque-là. Mais déjà, elle avait compris que Dieu était celui qui sauve. Et elle va donner, eh bien, ce vin, une outre de vin. Elle l'amène devant l'Éternel. Elle fait une offrande à Dieu. Elle remercie le Seigneur. Mais elle ne s'arrête pas là. Vous savez ce qu'elle va faire ? La bénédiction qu'elle a reçue, puisqu'elle a fait une promesse devant Dieu, elle va la rendre à Dieu. Et alors qu'elle a un fils, elle ne va pas le garder pour elle. Ce fils qu'elle a reçu, elle va l'offrir à Dieu. Et cette année-là, quand il était sevré, elle va aller devant Élie et elle va dire « Voilà, je te confie mon fils ». Elle va dire « Je le prête à l'Éternel et je le prête toute sa vie ». Ça veut dire quoi ça ? Je le donne. Je le donne. Si je le prête toute sa vie, c'est que je le donne. Parce qu'à l'époque, il y avait sur le premier-né, eh bien, cet appel à servir Dieu. Et quand on voulait racheter le premier-né, le garder pour soi, on devait offrir aussi un animal en échange. Elle a non seulement donné les animaux, mais en plus, elle a donné la bénédiction qu'elle a reçue. Et nous, quand on reçoit une bénédiction, une grâce de Dieu, est-ce qu'on a cette habitude, cette volonté de dire « Même cette bénédiction que tu m'as accordée, même la voiture que tu m'as donnée, même l'époux, l'épouse que tu me donnes, même la maison que tu m'as donnée d'avoir, Seigneur, qu'elle te soit utile, je te la confie, qu'elle te soit serviable. Vous avez une voiture, Seigneur, je vais prendre des gens qui ne peuvent pas venir par eux-mêmes, qui n'ont pas le permis, qui ne peuvent plus marcher, et je vais les emmener à l'église. Même ma voiture que tu m'as accordée d'avoir, je vais l'utiliser pour toi. Ma maison, je vais m'en servir pour accueillir du monde, pour pouvoir parler de toi, pour accueillir celui qui n'a pas à manger et pour lui donner à manger dedans, etc. Puis ce que Dieu vous mettra à cœur de faire pour lui. Ce que j'ai, tu vois, Seigneur, ce que tu m'as donné dans ta grâce, la réponse à mes prières, je te dis merci de me l'avoir accordé, mais je te le rends, c'est pour toi, je te le consacre, Seigneur. Et une troisième manière qu'elle a utilisée et dernière pour remercier le Seigneur, c'est qu'elle a composé un chant. Dans le deuxième chapitre, il nous a expliqué le chant qu'elle a composé. Il est dit, Anne pria et dit, « Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Amen. Et elle continue tout ce qui sera appelé dans les psaumes le cantique d'Anne. Elle écrit un chant pour le Seigneur. Parce qu'elle aime Dieu et elle veut le remercier de tout son cœur et de tout son être. Elle va le remercier de toutes ses forces. Puissions-nous garder cette habitude de dire « Seigneur, merci pour tes grâces et maintenant je veux te remercier de toutes mes forces. » Chaque jour de toute notre vie, on peut être reconnaissant envers Dieu parce que le soleil se lève sur nous, parce que la pluie tombe sur nous. Des fois, on n'aime pas la pluie, mais la pluie, c'est bon pour la nature. Le soleil, on n'aime pas, il fait trop chaud. On n'est jamais satisfait. Quand il fait trop chaud, on veut qu'il pleuve. Quand il pleut trop, on veut qu'il fasse beau. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il fait ce qui est bon pour nous. Et on a toujours un sujet de dire merci au Seigneur Jésus. Puissions-nous le faire de tout notre cœur. Je refais un peu le point. Elle était stérile, on se moquait d'elle. Elle était incomprise par tous ceux qui l'entouraient. Mais voilà, dans son attitude, elle s'est plainte devant Dieu, elle a prié sa souffrance, elle a prié ses douleurs, elle a prié ce qu'elle ressentait à l'intérieur, elle s'est humiliée, elle a cru sans voir, donc elle a vu, et elle n'a pas oublié de dire merci à l'Éternel. Ayons vraiment cette même habitude. Je terminerai avec une histoire, parce que vous pouvez me dire, oui, mais ça, c'est à l'époque, c'est ancien. Ça fait très longtemps. Fin mai 1940, vous connaissez M. Boyer ? Vous connaissiez M. Boyer ? Boyer Gaston, il avait fait des petits feuillets, un des petits feuillets, enfin plusieurs, qu'on lit dans les bonnes semences. Il en avait fait un. Fin mai 1940, alors que la campagne de France tourne au désastre, les troupes franco-anglaises se replient sur Dunkerque. Le 27 mai, l'Allemagne déclare triomphalement « L'armée britannique est encerclée, nos troupes vont procéder à leur anéantissement. » Dans le même temps, Winston Churchill annonce qu'il craint de voir arriver le plus grand désastre militaire de l'histoire britannique. Mais le roi George VI proclame un jour national de prière. Comme lui, des millions de Britanniques intercèdent dans les églises pendant que l'état-major met sur pied le projet de sauvetage de plus de 300 000 militaires, c'est l'opération Dynamo. Hitler se glorifiait de sa puissante armée de l'air, suffisante, disait-il, pour empêcher l'évacuation des troupes encerclées. Vous avez compris ? Les troupes militaires anglaises sont encerclées par les Allemands. Ils vont être anéantis. Il y a un projet de sauvetage qui est mis en place depuis l'Angleterre, mais les Allemands se tiennent prêts avec leurs avions pour détruire tout ce qui viendrait pour sauver cette armée qui était prise au piège. Tandis que les conditions météorologiques clouaient la Luftwaffe au sol, des centaines de bateaux réussissaient à ramener les soldats vers l'Angleterre sur une mer miraculeusement calme. Ça veut dire qu'au moment du sauvetage, il y a eu une tempête telle que les avions n'ont pas pu décoller pour empêcher le sauvetage de 300 000 personnes. Parce qu'un pays tout entier avait été alerté pour qu'il puisse prier, un roi avait pris au sérieux le fait de demander à Dieu de l'aide. Était-il pentecôtiste ? J'en sais rien et j'en ai rien peut-être à tirer de ça. Était-il catholique ? Était-il protestant ? Que sais-je ? Est-ce que c'est ça que Dieu regarde ? Cet homme a pris au sérieux une chose, c'est que la prière, c'est efficace devant Dieu. Et il a demandé au pays tout entier, on va prier. Et Dieu a fait qu'au moment où les troupes pour sauver sont arrivées, il y a une tempête qui empêche les avions de décoller, mais que sur la mer où les bateaux arrivaient pour transporter ces personnes, il y avait un calme miraculeux, comme le disent les livres d'histoire, pas les livres chrétiens, les livres d'histoire. Dieu avait été le plus fort, gloire à son nom. Et il termine, notre frère est parti il y a 2 ans, il termine comme ça, « Invoquez donc son aide dans votre vie, car tout est possible à Dieu. » Matthieu, chapitre 19, verset 26. Si Dieu a fait des choses il y a 2500 ans, 3000 ans, comme pour l'histoire d'Anne, il peut le faire encore aujourd'hui pour ceux qui prennent au sérieux la prière devant Dieu. Je vais demander à chacun d'incliner votre front pour qu'on puisse déjà remercier le Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, parce que c'est vrai que tu es fidèle en toutes choses. Ceux qui prennent au sérieux le fait qu'on a cette opportunité de crier à toi, de te prier. Seigneur, tu les bénis, tu viens à leur secours, tu viens dans leur détresse, les tirer de leurs maux. Merci encore pour cette femme que tu as guérie de la stérilité. Merci pour cette femme qui a eu plusieurs enfants, on le voit. Merci Seigneur parce que tu as vu sa souffrance. Tu as vu, Seigneur, que les gens ne la comprenaient pas. Et toi, Seigneur, tu étais déjà près d'elle en voyant sa souffrance et tu avais déjà prévu de la sortir de cette misère. Merci mon Dieu parce que ta promesse, dite par la bouche de ton serviteur, s'est accomplie à la lettre. Elle a eu cet enfant. Et quand nous regardons ce qu'a fait Samuel, ce prophète incroyable, cet homme qui a été utile pour parler à des rois, pour parler à des hauts chefs militaires, pour annoncer les oracles de l'Éternel, pour nous laisser toutes sortes d'enseignements, je veux te dire merci pour la venue de Samuel qui a été miraculeuse, Seigneur. Encore aujourd'hui, certains parmi nous, je le sais, peuvent dire « Merci Jésus, merci Dieu parce que tu m'as guéri de la stérilité. Ce que tu as fait avant, tu l'as fait pour certains ces dernières années. Je te dis d'avance merci. Et pour ceux qui doutent encore, tu mets dans leur cœur cette approbation, cette certitude que tes paroles sont vraies. Au-delà de ce que je dis, moi qui ne suis qu'un homme, il y a ce que dit ta parole, Seigneur. Et par ton esprit, tu viens confirmer dans nos cœurs qu'on peut faire confiance à ta parole parce que c'est la vérité, Seigneur. S'il te plaît, dépose de la foi dans nos cœurs. Donne-nous d'avoir une foi de toujours plus grande, de par les expériences que nous vivrons avec toi, de par la connaissance que nous obtiendrons par ta parole. Oui, Seigneur, que rien ne s'arrête à notre cerveau, mais que tout descende dans notre cœur pour que nous mettions à pratiquer ta parole et à croire qu'elle est la vérité, que tu es aussi le chemin et que tu es la vie éternelle. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont ici ce soir et de leur prouver encore qu'ils auront raison de te faire confiance. Amen. Amen. Merci Seigneur.